Donc là, on va démarrer la rencontre. Observatoire de l'alerte pour poser un petit peu des questions qui ne sont pas toujours posées, parce qu'en fait, la question du lanceur d'alerte est souvent prise sous l'aspect caritatif. C'est-à-dire que, oh là là, les lanceurs d'alerte, vraiment, ils ont pris tous les risques, il faut vraiment les aider, ils sont gentils, tout ça. Et en fait, tout ça masque quelquefois l'alerte elle-même. Et en fait, dans lanceur d'alerte, le mot important, c'est quand même alerte. Il faut absolument protéger les lanceurs d'alerte, bien sûr. Mais si on n'instruit pas l'alerte, on peut protéger tous les lanceurs d'alerte qu'on veut. Ça ne sert à rien. On le voit d'ailleurs pour le GIEC. Ça fait 30 ans qu'on alerte. Il n'en reste pas moins que le climat se réchauffe.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Et un, et deux, et trois degrés.
Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime contre l'humanité. Ils étaient bien présents, les lanceurs d'alerte climatique, d'Extinction Rébellion et Dernière Rénovation, pour cette 7e édition des Rencontres des lanceurs d'alerte, parmi tous les autres acteurs du monde de l'alerte, engagés pour l'intérêt général et le bien commun. Il a aussi été question donc de violences policières, de privatisation des services publics, de liberté de la presse et de Julian Assange, de nucléaire et de déchets toxiques, de pesticides et sécurité alimentaire, de l'ogre gris des EHPAD, plus d'une vingtaine de rencontres organisées en toute indépendance, dont vous pourrez très bientôt retrouver l'intégralité des propos en ligne. Ça aussi, c'est du bien commun. On retrouve tout de suite Daniel Ibanez, co-organisateur des rencontres et lanceur d'alerte lui-même, dans le hall de la MSH, Maison des Sciences de l'Homme, Paris Nord, à la Plaine Saint-Denis.
C'est bien tôt demain sur France Inter.
Voilà, c'est les 7e rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Et c'est couplé avec un salon du livre, le salon du livre des lanceuses et lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, vendredi 11 novembre, c'est l'Observatoire de l'alerte à 15h30.
Voilà.
Avec Marie Blandin et Francis Château-Renaud, qui est sociologue-chercheur et qui a, lui, défini le terme de lanceur d'alerte.
En ne traduisant pas le terme anglais « whistleblower », mais justement en ayant une recherche bien au-delà du terme « simplement siffler la fin de la partie », qui est vraiment « comment cette alerte ?». Alors, il a beaucoup travaillé entre 1995 et 1998 sur la question de l'amiante, par exemple, sur la question de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sur tout un tas de questions qui montrent d'ailleurs que l'alerte peut viser des dangers ou des risques ou des menaces, mais pour lesquelles on n'a pas toutes les preuves. Mais pour lesquels il y a vraiment une nature d'alerte, parce que les risques sont tellement importants dans leur gravité qu'il faut absolument des expertises indépendantes et des analyses pour compléter justement cette alerte et prendre des mesures de précaution, d'où le principe de précaution qu'on a dans le droit français.
Et Marie Blandin, ancienne sénatrice, c'est celle qui avait travaillé sur la première loi de défense des lanceurs d'alerte.
Exactement, en 2013. Et on lui doit notamment l'article 4133-1 du Code du travail qui dit « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur lorsque, de bonne foi, il constate un danger pour l'environnement ou la santé publique. » C'est merveilleux parce que toute la loi est là, finalement. C'est pas « peu alerter », c'est « alerte immédiatement ». Et on voit bien qu'il y a un devoir d'alerte. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le Code du travail, celui qui n'alerte pas risque la faute.
Alors ça démarre, là. Quatrième, c'est ça ?
Whistleblower, traduit en français par lanceur d'alerte. Non, c'est pas une traduction, c'est autre chose. Et whistleblower était traduit dans le droit canadien par dénonciateur. C'est vrai que le droit canadien a un avantage. Il y a plein de langues au Canada, hein. Il n'y a pas que le français et l'anglais, attention. Mais en tout cas, dans le droit fédéral, whistleblower a été traduit par dénonciateur. Et il n'était pas question que j'utilise le terme de dénonciateur, qui a sa fonction, d'ailleurs. On peut être un dénonciateur tout à fait légitime. Et donc, j'ai cherché un autre terme. Et depuis... Donc en 2006, très exactement, alors l'équivalent de l'Académie canadienne des lettres, je ne sais pas quoi, a décidé de traduire whistleblower par lanceur d'alerte. Vous voyez les effets comme ça.
Au départ, je viens de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est la région du port de Dunkerque. C'est là où on déchargeait le magnifique marbre qui venait de Madagascar. Et pour pas qu'il soit cassé, c'était calé par des milliers de sacs d'amiante qui venaient aussi de Madagascar. Donc la reconnaissance de la contamination des dockers a été un de nos premiers combats. Et entendre ces lanceurs d'alerte, dont leurs femmes, qui disait que la cousine est morte d'avoir secoué les bleus de travail de son mari. C'est-à-dire comment les gens font remonter des choses et qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là ? Est-ce que les codes en vigueur du travail ou le défenseur des droits et ses textes, est-ce que ça répond à la protection de ces gens-là ? D'une part, comment cette alerte est sérieusement étudiée, prise en compte et aboutit à des conclusions et à des décisions ? Et il y a vraiment les deux volets, avec évidemment le doute affreux, comment le ministère qui a laissé passer une saloperie va réagir quand on va lui dire « il y a une saloperie ». D'où la nécessité des contre-pouvoirs. En dehors des remontées du terrain, ce qui nous intéressera, c'est, mais ça il faudra qu'on trouve des partenariats, c'est l'étude de la jurisprudence. Parce que, en réalité, toutes les lois de protection des lanceurs d'alerte, il y a déjà des articles dans le Code du travail, avant toutes ces lois, qui protégeaient normalement. Il y a des déclarations européennes qui protègent, etc. Donc, c'est que les textes ne sont pas appliqués, d'une part, mais d'autre part, ils se superposent et ils sèment la confusion. C'est-à-dire que d'une part, on a eu des lois qui se sont peu à peu améliorées, avec un recul chez Sapin quand même, qui se sont améliorées et qui normalement protègent mieux. Mais en même temps, vous avez Macron qui a couvé, quand il n'était pas encore ministre, la loi secret des affaires. Or, la loi secret des affaires, elle dit presque le contraire de certains textes protecteurs du lanceur d'alerte. Donc ça va être la virtuosité des avocats, la sagacité des juges qui va rendre des jurisprudences successives qui vont faire autorité.
Make our planet great again.
...15h30, panoramique, carte blanche à dernière rénovation avec Loïc.
Antoine Chao.
C'est
bien. Bien. Tôt. Demain. Sur France Inter.
Merci beaucoup. Moi, j'ai limite envie de me mettre debout si ça vous dérange pas parce que je tiens un peu en place là. Je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans. J'ai fait plusieurs actions, plusieurs gardes à vue ces derniers mois alors que j'avais jamais fait une marche climat avant le mois de mars de cette année. Donc je suis un bébé militant, je suis très impressionné et intimidé par tous les intervenants de ce salon. C'est vraiment les gens que j'écoute de loin depuis des années et que j'admire profondément. Donc clairement, ce que j'ai fait ces derniers mois d'un peu particulier, c'est que j'ai essayé de m'accrocher aux cages du Parc des Princes lors d'un match classico OM-PSG. C'était le 16 octobre. J'ai fait 40 heures de garde à vue et j'ai un procès en avril pour m'être introduit lors de cette compétition et avoir voulu l'interrompre. C'est pas un acte isolé. On a fait énormément d'actions de ce genre avec le collectif Dernière Rénovation. C'est même pas un collectif d'ailleurs, c'est une campagne de résistance civile française. Cette première victoire qu'on veut obtenir, c'est sur la rénovation thermique des bâtiments d'ici à 2040. C'est un secteur complètement incontournable en France qui représente quasiment 20% des émissions du pays, le bâtiment, et 45% de la consommation énergétique de notre pays tous les ans. Donc on est en pleine crise énergétique, on est en pleine inflation, le pouvoir d'achat est complètement dégradé et on a encore 12 millions de Français qui vivent dans plus de 5 millions de passoires thermiques. C'est une situation complètement indigne pour ces personnes et c'est intolérable que ça se poursuive. L'actualité récente, c'est qu'on a failli avoir une première victoire importante il y a une dizaine de jours avec des amendements qui ont été votés par la représentation nationale, tant par la droite que par la gauche, pour augmenter le budget de la rénovation thermique en France de 12 milliards d'euros contre 3 milliards d'euros précédemment. On s'est vu opposer très rapidement le 49-3 sans aucune surprise, on s'y attendait. Il y a seulement 100 millions d'euros qui ont été rajoutés. Donc ça c'est dramatique pour nous parce que ce chantier de la rénovation thermique, si on veut réussir à faire cette transition écologique et sociale dans les années qui nous restent, il faut commencer par là. On n'a pas de sujet plus consensuel aujourd'hui. Ça touche des Français qui sont dans des situations précaires. Ce n'est pas un sujet nouveau. Pourquoi un nouveau collectif? Pourquoi une nouvelle campagne sur le sujet? Eh bien, parce qu'on est désarçonné de voir que les différentes méthodes ne marchent pas, que le gouvernement reste intangible et ne bouge pas malgré les cris des scientifiques, les marches par millions dans les rues, les pétitions par centaines qui ont pu être signées. Et vous l'avez vu, on en parle beaucoup dans les médias ces dernières semaines sur toutes ces nouvelles formes d'activisme et d'engagement citoyen, de résistance civile qui émergent. Parce que le reste n'a pas fonctionné. Donc en fait, dernière innovation, c'est ça, c'est des citoyens qui se reconnaissent pas forcément dans le terme militant, qui sont pour beaucoup des primo-militants, qui se rassemblent en collectif pour mener campagne. On s'inspire en fait de tous les mouvements historiques de résistance civile. C'est pas choisi au hasard, cette stratégie d'aller bloquer des gens sur les routes, d'intervenir dans des compétitions sportives. Vous avez peut-être vu Roland Garros, il y a Alizé qui va intervenir tout à l'heure à 16h30, je sais plus dans quelle salle. Alizé s'est enchaîné sur le filet de Roland Garros pendant la demi-finale. C'était il y a quelques mois. On a bloqué le Tour de France, j'y étais aussi. On est intervenu dans les stades de rugby il y a pas longtemps. Ça fait à peine 7 mois qu'on existe. Moi, j'étais clairement pro-Macron. J'ai fait de la fusion-acquisition en Chine pendant 3 ans. Après mes études, donc j'étais clairement pas votre copain il y a encore quelques mois. Et qu'est-ce que j'étais con.
Marie Blandin, qu'est-ce que tu as pensé du témoignage de Loïc de Dernière Rénovation?
Alors Loïc, qui nous explique qu'il ne vient pas d'un monde mobilisé sur le changement climatique et encore moins sur les actions spectaculaires aux limites de la légalité, il nous explique qu'il vient du monde libéral et des jeunes cadres qui faisaient du business.
Mon déclic, moi, c'était un verre au Vieux-Port de Marseille avec un très bon ami, alors que j'étais le personnage que je décrivais tout à l'heure, un peu plus droitiste. Et en fait, cet ami travaillait depuis 2-3 ans dans la transition écologique et m'a en 15 minutes fait passer de tout sourire, je vais boire un verre avec mes potes, à profondément déprimé, je viens de comprendre l'effondrement de la société. Quoi.
Et que d'un seul coup, quelqu'un lui a expliqué la transition, qu'il s'en est saisi, qu'il a mesuré l'urgence et qu'il est même prêt à faire des actions médiatiques le conduisant à la garde à vue, voire à une condamnation. Et moi, la première pensée que j'ai par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'il a dû être pédagogue, le gars qui lui a expliqué la transition écologique. Et moi, c'est ma conviction, je suis avant tout une médiatrice et la pédagogie me met très cher au cœur et je pense que c'est le plus grand moteur du changement social.
Premier étage, auditorium.
Ciao.
Tiens, salut.
Comment ça va?
Bien.
Salut.
Alors,
tour d'ascenseur.
Mais je vous en prie, on a fait un petit
génial,
tour d'ascenseur. On est vachement contents de vous avoir.
Yes.
Alors, c'est pour une interview.
Voilà,
qu'est-ce
exactement.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alors, Françoise, tu prépares là une rencontre,
hein.
Absolument. Ça, tu vas animer une rencontre.
Je prépare
dis-moi.
Une rencontre et je cherche désespérément Alizé de Dernière Rénovation.
Moi, je faisais partie aussi de ces personnes qui ne comprenaient pas pourquoi c'était à l'époque Extinction Rebellion qui avait fait une campagne qui s'appelait Rebellion of One, où des personnes s'asseyaient sur la route. Je sais que j'ai vu ces personnes et je me suis dit, pourquoi ils font ça en fait? Et ça m'a interrogée.
Voilà, 16h30, 18h, auditorium, animé par Françoise Verchère. Climat, environnement, du devoir d'alerte à la résistance avec Alizé, Dernière Rénovation, Martine Billard, ex-député, Mangoa XR, Extinction Rébellion, Marie Toussaint, députée européenne.
Alors vous voyez tout de suite que c'est une table ronde exclusivement féminine et nous l'avons fait exprès car nous avons pensé que vous avez regardé la photo de la COP 27 actuellement avec tous ces beaux chefs d'État. Et comme la photo était essentiellement masculine, nous nous sommes dit qu'il fallait compenser. Donc, à nous cinq, nous compensons facilement.
Françoise Verchère.
Voilà.
Tu viens de Notre-Dame-des-Landes, on s'était croisés là-bas, bien
voilà,
évidemment.
Voilà, on s'était croisés.
Tu faisais partie du groupement des élus, hein,
absolument,
c'est ça.
Absolument. Moi, ouais. J'étais coprésidente du collectif des élus opposés à l'aéroport. C'est-à-dire que j'ai été élue et en même temps, je me mettrais activiste. C'est-à-dire que je finirais par être traitée de quasiment d'éco-terroriste, hein, par certains ministres de l'Intérieur. Donc moi, j'ai compris qu'on pouvait, à Notre-Dame-des-Landes, j'ai compris qu'on ne gagnerait que si on faisait tout à la fois. La résistance sur le terrain, le travail de sape des arguments et le travail juridique et politique. Bon, donc moi, j'ai été un peu les pieds dans toutes les choses. Hein. C'est-à-dire, je me suis enchaînée au gré de la préfecture de Nantes parce qu'on était parçus par le préfet. J'ai fait des argumentaires, j'ai essayé d'informer, j'ai répondu aux médias, voilà. Et ce qui me perturbe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir la criminalisation aggravée de toutes les oppositions. Quand je vois que sur les méga-bassines, on a interdit la manifestation avant même qu'elle ait lieu, alors que nous, à Notre-Dame-des-Landes et à Nantes, on a eu l'autorisation de manifester sur le périphérique, d'attirer 40 000 personnes sur une deux fois deux voies. On a eu des moments difficiles de répression, mais ça a beaucoup empiré, quoi. Jamais autant qu'aujourd'hui, il ne faudrait agir et agir en secouant un peu tout le monde. Et j'ai l'impression que le carcan de la répression se ferme sur nous. J'ai été très touchée par le fait qu'elles disent, en gros, ces jeunes femmes là qui étaient là, nous, c'est une question de survie. Et elles ont raison. C'est une question de survie maintenant pour les générations qui viennent. Donc je pense qu'elles vont avoir la force qu'il faut. En tout cas, je le souhaite. Hein.
C'est le capitalisme qui peut renverser, et c'est pas le climat qui peut changer, c'est le capitalisme qui peut renverser.
Merci à Daniel Ibanez, Marie Blandin, Francis Chateau-Renaud, Françoise Verchère et tous les autres bénévoles qui organisent les rencontres annuelles des lanceurs d'alerte qui seront bientôt intégralement visionnables en ligne. Toutes les infos sont sur le site de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve dimanche prochain à l'antenne et en podcast.